patria, patriarca, 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 patriarca.
Les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au féminin.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes sur Dégenré. Ce soir, on va faire une émission sur un texte de Paola Tabet qui s'appelle « Les mains, les outils et les armes ». Alors, en fait, à Dégenré, on avait envie de vous présenter ce texte. C'est un texte qui a été écrit par une anthropologue qui s'appelle Paola Tabet. En 1979, il a été publié. Et c'est un texte qui parle de pourquoi les hommes et les femmes dans le monde ne font pas les mêmes travaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, elle se pose la question de qui fait quel travail, et ensuite, de qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce que c'est naturel que les femmes et les hommes ne fassent pas les mêmes travaux, ou au contraire, est-ce que c'est culturel et que ça veut bien dire quelque chose de particulier ? Alors notre envie pour ce soir, c'est de présenter un texte théorique, mais de manière le plus simple possible, parce que ces textes qui ont été écrits par des gens qui ont fait beaucoup d'études sont parfois très intéressants, mais très peu accessibles à cause du vocabulaire, de la longueur, et puis aussi on ne sait pas forcément où les trouver. Donc l'idée de ce soir, c'est vraiment que ça puisse être écoutable, compréhensible par toutes et tous. Et on va commencer par une petite musique de Oumou Sangaré.
Thank you.
D'écouter Nebife de Oumo Sangaré, qui était une grande féministe malienne, qui a très vite écrit des chansons où elle parle du désir et du plaisir féminin.
Et elle est toujours une très grande féministe malienne, elle est toujours vivante. Alors, on va vous parler un peu d'un texte ce soir qui s'intitule « Les mains, les outils, les armes ». C'est un texte qui a été écrit par Paola Tebet, c'est une anthropologue italienne. Donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, il a été publié en 1979 dans la revue française d'anthropologie qui s'appelle L'Homme. Paola Tebet, c'est une anthropologue, c'est une ethnologue, c'est quasiment des synonymes, anthropologie, ethnologie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'anthropologie ? L'anthropologie, c'est une science qui a pour objectif de décrire et de comparer les différentes organisations sociales, les différentes cultures. Cet anthropologue s'est donné pour objectif d'étudier les mécanismes internationaux de l'oppression des femmes afin de trouver les points communs des systèmes de domination masculine. Donc elle travaille sur la domination masculine et elle essaie de comprendre comment celle-ci s'installe, se perpétue et quelle forme elle peut prendre. Et Paola Tebet, c'est une anthropologue qui va vraiment comparer les différentes sociétés pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en commun sur la domination masculine entre les différentes sociétés. Le texte qu'on va vous présenter ce soir, c'est un essai qui fait une soixantaine de pages. Et dans cet essai, Paola Tebet analyse la division sexuelle du travail, principalement dans les sociétés de chasseurs-collecteurs et dans les sociétés agricoles et artisanales. Sa question de base est : quel est le facteur qui va faire qu'une activité va être une activité féminine ou masculine ? Dans l'introduction de son texte, Paola Tebet nous fait d'abord part de tout ce qui a été écrit en anthropologie sur le sujet. En fait, les anthropologues, en étudiant les différentes sociétés, se rendent compte que dans presque toutes les sociétés, il y a une division sexuelle du travail qui est différente d'une société à l'autre, mais on retrouve des points communs. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tâches masculines ou féminines qui vont se ressembler d'une société à l'autre. Selon les anthropologues, en gros, la chasse, la pêche, les travaux au long cours ou exigeant une force ponctuelle sont des travaux faits par les hommes, soit exclusivement, soit majoritairement. Et les travaux qui sont longs, monotones, la cuisine, le soin aux enfants, sont plutôt des travaux féminins. Donc ça n'a rien de très original pour l'instant. Et alors comment ces anthropologues expliquent ça ? Paola Tabet examine donc comment les différents anthropologues ont interprété cette division du travail. Il y a environ 4 tendances dans l'explication de cette répartition sexuelle des tâches. Alors certains anthropologues disent que les travaux sont complémentaires, réciproques, égalitaires, basés sur des capacités naturelles différentes. Pour eux, la division sexuelle du travail organise l'interdépendance entre les époux. Alors c'est des anthropologues comme Leroy Gourhan ou Leacock qui ont dit ça, dans les années 50 à peu près. D'autres anthropologues ont fait des descriptions précises de la répartition des tâches. Il y a un anthropologue qui s'appelle Firth, qui a travaillé en Nouvelle-Zélande chez les Maoris. Et lui, il va dire que les activités féminines et masculines sont complémentaires, malgré le fait que les activités des femmes sont en fait les mêmes que celles effectuées par les esclaves chez les Maoris de Nouvelle-Zélande. Mais il se garde bien de dire que, enfin, dans le cas de l'esclavage, que la répartition des tâches est complémentaire. Donc on voit déjà un début de critique qui pourrait se faire, mais qui ne se fait pas encore dans l'anthropologie de Firth. D'autres anthropologues voient dans cette division du travail des inégalités entre les sexes. Par exemple, il y a Maurice Godelier qui a travaillé chez les Barouya de Nouvelle-Guinée, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il dit là-bas, les hommes sont prédisposés à la chasse et à la guerre, les femmes à la cueillette, au transport des charges, à la cuisine et aux soins des enfants. Selon lui, cette division n'est pas due à une moindre force physique des femmes, mais plutôt à leur manque de mobilité, due aux grossesses et aux soins des enfants. Ceci dit, il dit que c'est sur cette répartition des tâches que repose le fait que les hommes aient le monopole du politique, et donc dominent les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des anthropologues qui disent « Oui, cette répartition sexuelle des tâches permet la domination masculine, mais c'est quand même basé sur quelque chose de naturel, c'est que les femmes font les bébés et du coup sont moins mobiles que les hommes. » Et il y a deux anthropologues qui ont fait quelque chose de très intéressant. C'est un travail sur lequel Paola Tabet va travailler. Elle va reprendre ce travail et l'examiner de plus près. C'est Murdoch et Provost. Ils font une comparaison très précise sur 185 sociétés de quels travaux sont à majorité masculine, exclusivement masculin, mixte, ou à majorité féminine, ou exclusivement féminine. Alors déjà, ils remarquent qu'il n'y a pas ou presque pas de travaux exclusivement féminins, des travaux dont les hommes sont totalement exclus, pour des raisons religieuses ou de croyances, enfin, ou en tout cas d'interdits sociaux, alors qu'il y a pas mal de travaux exclusivement masculins. En fait, quand ils font cette comparaison entre les 185 sociétés qu'ils ont regardées, ils cherchent les facteurs de la division sexuelle du travail. Ils font des pourcentages en voyant, comme j'ai dit, quels sont les travaux majoritairement féminins ou masculins. Alors, eux, leur conclusion, c'est qu'ils affirment qu'une activité aura des chances d'être masculine si elle nécessite beaucoup de force, si cette force est mobilisée dans de brefs instants, et si elle se déroule loin du foyer ou de la maison. Ils affirment aussi que c'est plus difficile de déterminer les facteurs qui feront qu'une activité sera féminine. Il faut que l'activité ne soit pas loin de la maison, qu'elle soit monotone, quasi quotidienne, sans danger, et pouvant être facilement interrompue et reprise. Donc Paola Tabet, quand elle résume les différentes façons qu'ont eu les anthropologues jusqu'à elle de considérer la division sexuelle des tâches, elle dit
« On voit donc une tendance à décrire la division sexuelle du travail selon des facteurs assez homogènes. En particulier, un certain accord semble se faire sur le caractère naturel, presque originel et complémentaire de cette division. Même pour ceux qui reconnaissent l'importance que peut avoir cette division, même pour ceux qui reconnaissent l'importance que peut avoir dans l'inégalité le monopole masculin de la chasse et de la guerre, donc celui des armes. »
En fait, elle constate que les arguments soi-disant scientifiques avancés pour expliquer les raisons de la division sexuée du travail sont en fait très proches des arguments courants de notre société. Il y aurait une prédisposition naturelle des hommes et des femmes à faire telle ou telle tâche, et surtout les femmes seraient limitées par leur corps. Elles ne pourraient pas faire toutes les tâches. C'est-à-dire que même quand on reconnaît qu'il y a une inégalité dans la répartition du travail, c'est toujours lié au corps des femmes, c'est-à-dire elle ferait des bébés, du coup elle pourrait pas bouger autant que des hommes, ou alors je sais pas, elle serait naturellement plus attentive aux bébés, du coup elle serait attachée aux soins, aux enfants, etc., etc. Et on voit du coup, enfin je sais pas vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, on m'expliquait la répartition des tâches entre mon père et ma mère sur des capacités soi-disant naturelles des uns des autres. Les hommes auraient plus l'esprit logique, et du coup c'était mon père qui faisait les comptes et toute la technique, et ma mère, comme les femmes seraient plus sensibles, elles s'occuperaient plutôt du soin aux enfants, des personnes malades, etc. Donc on va écouter une petite musique et après on va voir ce que Paola Tabet dit de tout ça.
You make no, you make no sense, you make no, you make no sense, you make no, you make no sense, you make no, you make no sense. Say you, you, you make no sense at all.
D'écouter une chanson d'un groupe de meufs du Bronx qui s'appelle ESG et c'était You Made No Sense.
Alors on reprend avec Les mains, les outils, les armes, un texte de Paola Tabet. En fait, Paola Tabet, elle va reprendre la comparaison sur 185 sociétés de Murdoch et Provost et elle va voir qu'est-ce qui fait en fait qu'une activité va être masculine ou féminine. Donc ces 185 sociétés, elles sont un peu partout dans le monde. Ce qui est commun quand même entre toutes, c'est que c'est des sociétés soit de chasseurs-collecteurs, soit des sociétés agricoles ou artisanales. C'est-à-dire que le monde industriel, où les tâches sont divisées beaucoup plus et sur beaucoup plus de facteurs, ont été exclus de la comparaison pour ce travail-là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Paola Tabet ? Donc sa thèse, c'est qu'elle va essayer de démontrer que cette division du travail n'est pas basée sur des capacités naturelles des deux sexes, mais sur l'accès aux outils et aux armes. En démontrant ça, elle prouvera que cette division du travail n'est pas neutre, qu'elle n'organise pas la complémentarité entre les sexes, mais la soumission des femmes aux hommes. Elle va essayer de démontrer, en fait, en analysant activité par activité, quels instruments, quels outils et quelles machines, quelles armes, chaque sexe utilise pour ses activités. Donc on va voir activité par activité comment se fait la répartition par sexe des outils. Dans les activités par exemple de collecte, c'est-à-dire la cueillette, de chasse, de pêche, d'agriculture, d'artisanat, sur 185 sociétés. Il faut dire quand même à ce point de l'exposé que c'est pas la première à avoir dit que la répartition sexuelle des tâches n'était pas naturelle. Déjà dans les années 20, il y a Margaret Mead, qui est une célèbre anthropologue, qui a analysé l'éducation en fait des enfants dans différentes sociétés, et elle démontre que déjà que les enfants sont pas éduqués pareil d'une société à l'autre, et du coup que la culture en fait, les cultures différentes sont liées à des éducations différentes. Mais elle montre aussi que les filles et les garçons dans les différentes sociétés sont pas éduqués pareil, et que du coup ils apprennent à faire certaines tâches. Et elle dit donc coup c'est pas naturel que les femmes fassent certaines tâches, elles l'apprennent en fait, comme on apprend à avoir une culture, à se comporter dans une société. Il y a aussi Claude Meyassou, qui est un anthropologue qui a travaillé en Afrique de l'Ouest, qui écrit que tout ça n'est pas très naturel.
Rien dans la nature n'explique la répartition sexuelle des tâches, pas davantage que des institutions comme la conjugalité, le mariage ou la filiation paternelle. Toutes sont infligées aux femmes par la contrainte. Toutes sont donc des faits de civilisation qui doivent être expliqués et non servir d'explication. Meyassou Claude, 1975, Femmes, greniers et capitaux.
Donc Paola Tabette, dans son travail, elle fait une hypothèse, qui est qu'une activité sera masculine quand seront utilisés les outils, les armes et les machines les plus avancées d'une société. Ces outils, armes, machines sont des instruments. Elle rappelle, Paola Tabette rappelle, avant de commencer vraiment son analyse, qu'est-ce que ça veut dire un instrument, qu'est-ce que c'est l'importance des outils dans une société. Alors elle rappelle, elle fait une citation sur ça.
Avec l'évolution technologique, l'être humain n'est plus défini et limité par les possibilités de son corps. Les outils deviennent son prolongement, élargissant sa capacité de s'approprier la nature et d'agir sur elle.
Alors, en fait, Paola Tabette, durant toute cette étude, elle va démontrer que les activités des femmes, les activités féminines, sont globalement sous-équipées. Et cela l'amène à poser la question suivante.
On doit en effet se demander ce que signifie le fait que l'un des deux sexes détient la possibilité de dépasser ses capacités physiques grâce à des outils qui élargissent son emprise sur le réel et la société, et que l'autre, au contraire, se trouve limité à son propre corps, aux opérations à main nue, ou aux outils les plus élémentaires dans chaque société. Ne serait-ce pas là une condition nécessaire pour que les femmes puissent être utilisées elles-mêmes matériellement comme outils dans le travail, dans la reproduction, dans l'exploitation sexuelle?
Donc Paola Tabette pose cette question. Ne serait-ce pas là une condition nécessaire pour que les femmes puissent être utilisées elles-mêmes matériellement comme outils dans le travail, dans la reproduction, dans l'exploitation sexuelle? C'est-à-dire, elle se dit, mais en fait, finalement, si les activités des femmes ne sont pas outillées, est-ce que finalement les femmes ne seraient pas les outils des hommes? Ne seraient pas utilisées en fait comme des chevaux de trait ou des choses comme ça par les hommes dans leur travail? Donc on va voir ce qu'elle va en dire. Elle précise quand même, avant de commencer vraiment l'analyse activité par activité, elle précise qu'elle ne va pas chercher l'origine historique de ça. Elle laisse ça aux historiens et aux archéologues. Elle se dit, voilà, on a des sociétés qu'on peut observer. Il faut voir quel facteur fait qu'une activité va être masculine ou féminine, mais surtout de voir qu'est-ce que ça veut dire et de démontrer que ça, c'est pas naturel en fait. Alors on va écouter une petite chanson, c'est une spéciale dédicace à Mo.
Too shy.
On vient d'écouter This is for my people de Mrs. Elliott.
Alors, dans le texte de Paula Tabet, là, on va arriver à l'analyse activité par activité. On va commencer par la collecte. Comment ça se passe pour la collecte ? Déjà, qu'est-ce que c'est ? La collecte, c'est la cueillette de fruits, de légumes, de racines qui n'ont pas été cultivés par des êtres humains, et aussi des coquillages, des petits animaux, des choses comme ça. Alors, c'est une activité qui est pratiquée par pas mal de sociétés et qui nourrit pas mal de monde. Alors, selon les pourcentages faits par Murdoch et Provost, la collecte des petits animaux et des végétaux est principalement féminine, et celle des végétaux est à 80% féminine. Donc c'est une activité particulièrement pratiquée par les femmes. C'est une activité qui est principale dans les sociétés nomades ou semi-nomades qui font pas d'élevage, c'est-à-dire sauf enfin, dans les sociétés qui vivent pas dans des déserts en gros, hein, et qui sont nomades ou semi-nomades. Alors, en Australie par exemple, chez les Arenda, les femmes ont comme instrument un bâton à fouir. Les bâtons à fouir, c'est des bâtons qui servent à déterrer des tubercules. Et elles ont aussi un panier. Les hommes Arenda, quant à eux, ont des couteaux de pierre, des boomerangs, des haches, des boucliers, des lances, des propulseurs. Les bâtons à fouir sont difficiles à manier et impliquent un travail difficile, surtout pour attraper les petits animaux. Les instruments des hommes sont beaucoup plus efficaces, en fait, précis, peuvent servir d'armes aussi, et surtout servent à construire tous les instruments, y compris les bâtons à fouir. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas accès aux instruments qui leur permettent de construire leur principal outil de récolte. Chez les Mouanguines, leurs voisins, on retrouve la même logique. Plus la technologie est complexe, plus le travail est masculin, moins elle est complexe, plus le travail est féminin. Chez les Kung de Nyanya, en Afrique du Sud, il est interdit aux femmes de toucher arc et flèche, alors que les hommes n'ont pas d'interdit par rapport à la collecte. Ils y participent s'ils le veulent, mais le travail quotidien est assuré par les femmes. Elles récoltent là-bas les racines avec des bâtons très rudimentaires, donc comme en Australie, tout en portant les enfants sur de longues distances. Elles assurent ainsi le transport des enfants et aussi des charges, c'est-à-dire que quand les groupes se déplacent, c'est elles qui portent le peu d'objets que ces groupes nomades ont. Les hommes font la chasse et fabriquent les outils. Pour la collecte des mollusques et des petits animaux aquatiques, on retrouve le même schéma. Par exemple, chez les Yamana, c'est un groupe d'Amérique du Nord, les femmes ramassent et pêchent dans des conditions très difficiles, presque sans outils. Elles ont pour pêcher des coquillages et des petits animaux marins une spatule fendue et un bâton pointu. Pendant ce temps-là, les hommes pêchent de gros mammifères avec des armes et des canoës. Ici encore, ce sont les hommes qui ont les outils et qui les font, y compris ceux de leurs épouses. Comme première remarque, on peut voir que les activités des femmes dans la collecte nécessitent de grands déplacements et aussi une grande force physique, une dépense énergétique très forte qui peut être fait en de brefs instants. Donc déjà, Murdoch et Provost disaient ce qui peut distinguer une activité féminine d'une activité masculine, c'est la force physique et le fait qu'elle soit déclenchée en de brefs instants. Ben, on voit que, en tout cas chez toutes les sociétés que je viens de citer, les femmes font des activités très dures, elles se déplacent beaucoup, et en portant souvent des fardeaux bien plus lourds que les hommes. Ensuite, si l'on regarde du côté des outils utilisés, non seulement entre les outils féminins et masculins, il y a un saut technologique, c'est-à-dire vraiment les femmes vont utiliser les outils les plus rudimentaires alors que les hommes vont avoir des outils bien plus complexes, mais les activités féminines sont continues, ne laissant presque pas de temps libre. Cette répartition du travail donne aux hommes du temps libre pour les activités intellectuelles, les danses, les rituels, la production des outils, des armes. C'est ce que les femmes ne peuvent pas faire, du fait même de leur activité de production. C'est-à-dire que, par exemple, pour aller chercher les tubercules avec un bâton à fouir, il va falloir faire ça de façon continuelle, toute la journée, tout en s'occupant des enfants, tout en les portant, tout en se déplaçant, alors que les hommes vont faire de la chasse de temps en temps, et ça va leur prendre beaucoup moins de temps. Et comme ça, ils pourront avoir le temps de faire de la politique, de se reposer, d'avoir des loisirs, etc.
Spécialement dédicacé aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On
parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, ethologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières.
Aux costumières, aux couturières, aux façonnières, aux gantières, aux lingères, aux ménagères, aux guichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières, vas-y.
Continue la liste.
Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste.
On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Dédicacé aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrice, créatrice, animatrice, opératrice, réalisatrice, productrice, éducatrice, monitrice, compositrice, cantatrice ou galérienne, magicienne.
Aux historiennes, bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux pharmaciennes.
À toutes celles saisonnières, céréalières ou journalières,
qui pour un travail égal, c'est lui qui a fait le mal.
La qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Alors, on vient d'écouter un petit morceau des Famoustés, un groupe de meufs de Toulouse.
Vous êtes toujours sur Dégenrées, sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Ce soir, on parle du texte de Paola Tabet. C'est une anthropologue qui analyse la répartition des tâches dans des sociétés de chasseurs-collecteurs, d'agriculteurs et d'artisans et d'artisanes, et qui regarde qui a les outils, les armes ou les machines dans ces sociétés. Elle nous parle donc après la collecte de la chasse. Sur les 185 sociétés étudiées, la chasse est une activité qui est à 97% ou à 100% masculine. C'est des taux très forts. Sauf pour les petits animaux, pour la chasse des petits animaux. Or, c'est dans cette activité que se développe la technologie de pointe dans toutes ces sociétés-là. C'est intéressant de voir la participation des femmes dans cette activité. En général, les armes utilisées à la chasse sont couvertes d'interdits religieux, les femmes n'ayant pas le droit de les toucher. En fait, on distingue quatre formes de participation féminine aux chasses. Dans certaines sociétés, il y a des femmes qui font tout type de chasse, c'est assez rare. Par exemple, dans certaines sociétés d'Amérique du Nord, comme les Inuits. Mais ce sont des cas individuels, et elles arrêtent de chasser dès qu'elles se marient. C'est-à-dire, elles chassent soit avant de se marier, soit quand elles sont veuves. En dehors de ces cas individuels, les femmes sont sous-équipées et elles ne fabriquent pas non plus les outils.
Il semble donc que pour les femmes, vie matrimoniale et activité de chasse avec armes, et plus généralement activité masculine complexe, s'excluent réciproquement. La levée de la division sexuelle du travail, de l'interdiction pour les femmes d'accomplir les travaux masculins avec un équipement qui ne cède en rien avec celui des hommes, apparaît incompatible avec la vie conjugale. Comme le montre dans les mythes le thème des Amazones ou celui des vierges chasseresses et guerrières. La division du travail est une institution solidaire de celle du couple et de la famille.
On voit aussi que dans de nombreuses sociétés et un peu partout dans le monde, les femmes participent aux battues dans les chasses. Elles rabattent le gibier, c'est-à-dire elles courent vers le gibier, parfois dangereux comme les bisons, crient mais ne sont jamais armées, même pour se défendre. Dans le cas des Yamana, on a déjà parlé de cette société, c'est là où les femmes pêchent les coquillages dans l'eau avec des espèces de spatules très mal faites. Les femmes pagaient lors de la chasse aux animaux marins, c'est-à-dire que les hommes sont à l'avant de la pirogue et les femmes pagaient.
Les femmes dirigent le canot à la poursuite de l'animal. Cette activité, qui n'est pas sans risque, exige en outre les sursauts d'énergie prétendument caractéristiques des activités masculines et pour lesquelles les hommes, selon Guzinde, l'ethnologue qui parle des Yama, mériteraient un repos bien gagné. De toute évidence, à ses yeux, les femmes ne ressentiraient pas les mêmes besoins. Celles-ci, non seulement rament, mais, le canot étant fragile et ne pouvant être hissé sur le rivage, elles doivent aussi nager dans l'eau glacée pour la marée. Peut-être pourrait-on dire que la femme et le canot ensemble servent à l'homme de moyen de transport. Dans tous les cas que je viens de mentionner, le rôle des femmes est indispensable et fait partie intégrante des opérations de chasse. Mais leur participation se fait à main nue. Elles servent seulement de moyens sonores pour effrayer l'animal. Elles sont une sorte d'épouvantail sans aucun pouvoir offensif, et en même temps sans protection ni moyen de défense personnelle. Leur position reste subordonnée. Elles ne capturent jamais directement l'animal.
Il y a aussi d'autres sociétés où la subsistance repose quasi exclusivement sur la chasse. Donc dans ces sociétés-là, les femmes aussi chassent, mais avec un équipement moins perfectionné que les hommes, même quand cela est pour chasser les mêmes animaux. Alors ça rend la chasse non seulement moins productive, mais aussi plus dangereuse pour la chasseuse. Et enfin, il y a des chasses où les hommes et les femmes participent tous deux, c'est la chasse aux petits animaux. Et c'est une chasse en fait qui ne nécessite pas d'armes, mais des pièges. Ceci dit, dès que les pièges se complexifient, l'activité redevient exclusivement masculine. Paola Tabet conclut que ce sont les armes qui sont interdites aux femmes et pas la chasse.
Il ne semble donc pas que ce soit les contraintes physiques liées à la charge des enfants, à la moindre mobilité, à l'infériorité physique des femmes qui puissent rendre compte de leur place dans la division sexuelle du travail. Ce n'est pas la chasse qui est interdite aux femmes, ce sont les armes. C'est l'accès aux armes, en tant que telles, et en tant que concrétisation d'un développement technologique qui leur est refusé.
la famille.
Les tuteurs tirent les ficelles aux noces des gazelles.
Mineur, ma sœur, alors on te rappelle.
Écoutez la chanson, elle ne changera pas d'air.
Et qu'on se le dise,
cette loi est à défaire.
À ne plus jamais faire.
À ne plus jamais faire.
Et qu'on se le dise,
cette loi est à défaire.
À ne plus jamais faire.
Alors, on vient d'écouter Wejdel Yakadi, une chanson contre le code de la famille en Algérie.
Alors, pour la pêche, pour l'activité de la pêche, c'est moins clair que pour la chasse. En fait, la pêche, c'est à 82% une activité masculine, mais dans certaines sociétés, les femmes font la plupart de la pêche. Elles ont aussi une grande gamme d'outils qu'elles fabriquent elles-mêmes. Est-ce que la répartition des outils est moins rigide que pour la chasse ? En fait, non, si on regarde de plus près, il y a encore une division très stricte par rapport aux outils et aux armes. La première distinction par sexe repose sur la pêche avec armes, avec perforation, qui est exclusivement masculine, et la pêche sans armes, avec filet et hameçon, c'est la pêche à laquelle les femmes participent. Ça peut être la pêche majoritaire, mais dès qu'en fait il y a des outils pour pêcher qui peuvent servir d'armes, ça devient une activité exclusivement masculine. On peut remarquer que la pêche des femmes est aussi moins productive, d'autant plus que dans la plupart des sociétés, il y a des lieux et des moments qui leur sont interdits. Par exemple, même quand ce sont les femmes qui assurent la subsistance par la pêche masculine sera plus prestigieuse, cérémonielle, quand les bancs de poissons arrivent ou des choses comme ça. La seconde distinction qu'on trouve dans la pêche, je pense que vous l'avez déjà deviné, ça concerne les embarcations. Plus l'embarcation est sophistiquée, plus l'activité est masculine, interdisant aux femmes les pêches les plus productives. La construction des embarcations est interdite aux femmes, et même pour la même pêche, les femmes ont un plus faible équipement. Par exemple, à Samoa, pour pêcher le poulpe, les femmes le pêchent à marée basse avec un bâton, alors que les hommes ont des leurres et des canots pour les pêcher, ce qui est beaucoup plus efficace. En conclusion pour la pêche,
les sous-équipements des femmes est aussi bien réel. Les armes leur sont interdites. Elles pêchent souvent à main nue. Elles ne peuvent disposer des engins les plus productifs et les plus importants, en particulier les embarcations.
On va voir après un peu de musique qu'est-ce qu'il en est pour l'agriculture.
Asa ou TV, Dandi ou la barre, enfants la l'aîné, et qu'un poignet douleur. Merci mon Dieu, sans ou mi gay soigné, mi lac pas loqué, mi si pot mou douleur. A sa ou TV, j'en dis ou la barre, j'en fond la ligne, et qu'un pouillé douleur. A mi remercie mon Dieu, sans ou mi gay soigné. Lac pas le cœur, mais si pas de mon douleur. Na 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 na. pas tombe à terre, à toi il a tombé, tu manges ton tête en nez. Les enfants l'a grandi, j'en dis où les prix, tu sens que t'as pas tué, ton ciel a fini bouché. À moi la glissé, moi la pas tombe à terre, à toi il a tombé, tu manges ton tête en nez. Enfants l'a grandi, j'en dis où les prix, tu sens que t'as pas tué, ton ciel l'a fini bouché.
De Salem Tradition.
Salem Tradition, c'est un groupe que j'aime bien parce que c'est un des rares groupes de Maloya. Donc le Maloya, c'est une chanson, c'est un type de chanson de La Réunion qui est plutôt avec des textes révolutionnaires. Et c'est un des rares groupes où c'est une femme qui chante et qui dirige le groupe. Ce qui est assez formidable, c'est qu'elle a des textes très beaux sur l'esclavage, mais aussi sur l'oppression des femmes. Et là, celui qu'on vient d'entendre, c'est un texte qui dit « assez versé mon sang » et qui parle, en fait, de l'exploitation des femmes dans la famille. Donc, très intéressant et très beau. Elle a une voix magnifique. Moi, j'aime bien. Ouais, pendant la pause avec Dino, on se disait « c'est fou comment, comment ce texte, en fait, il parle de sociétés qui ont des modes de production très différents d'une autre, parce que c'est pas des sociétés industrielles. » Et comment on peut retrouver des principes communs. Et par exemple, sur l'accès aux outils et aux armes, et moi je peux trouver des exemples dans ma vie. Par exemple, quand j'ai travaillé chez des bergers, tous les bergers en fait savaient se servir de fusils. Parce que quand il y a des chiens qui attaquent le troupeau, par exemple, c'est très pratique d'avoir un fusil, rien que pour tirer des coups en l'air, pour faire fuir les chiens. Et moi j'avais demandé à qu'ils m'apprennent en fait à me servir des fusils. Et ils n'osaient pas me dire non, ils me disaient oui, mais ils m'ont jamais appris. Et ou alors, par exemple, sur l'usage des outils, moi, quand j'étais petite, mon père était bricoleur, bien sûr, et j'ai pas eu le droit de toucher les outils, mais j'avais vraiment pas le droit de toucher les outils, et jusqu'à 20 ans, je savais même pas ce que ça voulait dire une clé à molette, parce que c'était interdit et c'était dangereux. C'est évident que si j'avais été un garçon, il m'aurait appris à bricoler, à me servir d'un marteau, d'une scie et de ce genre de choses, quoi. Comme quoi, hein, c'est des principes qu'on peut retrouver, même si c'est des sociétés qui sont pas si proches que nous, par plein de côtés. On va continuer sur l'agriculture. Comment ça se passe du point de vue de l'agriculture? Quels outils sont attribués aux femmes et aux hommes? Alors, dans les sociétés agricoles, la division sexuée du travail se fait plus sur les différentes tâches qui s'enchaînent. Comme c'est des tâches, c'est moins des tâches ponctuelles, mais c'est des tâches qui s'enchaînent dans l'année. Le défrichage, le sarclage, l'ensemencement, la récolte, l'irrigation, etc. Alors, on voit que quand l'agriculture est rudimentaire, les femmes ont comme outil la houe, c'est un manche et un objet dur au bout, et le bâton à fouir, qui sont utilisés aussi bien par les femmes et les hommes dans la préparation du sol, dans l'ensemencement, dans le sarclage et dans la récolte. Par contre, les outils tels les haches, les coupes-coupes, les sabres, employés dans le défrichage ou la construction de palissades, sont employés uniquement par les hommes. Or, si les hommes ne font pas le défrichage ou la palissade, les champs ne peuvent pas être cultivés. C'est-à-dire que les activités qui vont être exclusivement masculines sont des activités stratégiques. Et même dans ces activités, ce sont les femmes qui font le travail de base. Par exemple, le défrichage. C'est-à-dire même si c'est les hommes qui vont abattre les plus gros arbres, les femmes vont faire toutes les buissons, les ronces, le défrichage qui demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Les hommes utilisent donc les outils sans lesquels l'activité agricole n'est pas possible.
L'emploi de ces outils assure souvent le contrôle de tout le processus productif et confine les femmes dans un rôle subordonné, même lorsqu'elles accomplissent la plus grande partie des opérations agricoles.
On voit d'ailleurs que les outils qui sont utilisés par les hommes dans l'agriculture sont souvent associés au sexe masculin ou à la virilité, et que des interdits religieux reposent sur ces outils, et que les femmes en général sont interdites d'y toucher. Enfin, c'est pas possible pour elles de les utiliser, voire de les toucher. On voit par exemple en Kanaky, donc en Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud, que donc c'est un endroit où je vais des fois, et on voit que dans l'agriculture, alors que c'est les femmes qui font la plupart du temps de travail agricole, tout ce qui est activité qui nécessite des outils complexes ou les activités les plus valorisées, les ignames sacrées, c'est des activités exclusivement masculines. Et on voit par exemple que l'igname, surtout si c'est une igname sacrée, est considérée comme un phallus, comme le sexe de l'homme qui va pénétrer la terre. Enfin, c'est très associé à une idée de supériorité masculine, quoi. Quand la charrue arrive, l'agriculture devient plus productive. Or, dans les sociétés agricoles, la charrue n'est utilisée que par les hommes, les femmes utilisant leurs propres forces, des outils manuels et des machines simples. Elles feront, en fait, toutes les opérations qui sont les plus longues, fatigantes et monotones. Et même parfois, quand la charrue arrive et qu'il n'y a pas encore d'animaux vraiment domestiqués, les femmes sont utilisées pour tirer la charrue. Selon Sans Livre, qui est un anthropologue aussi,
c'est à travers la différenciation des tâches que s'exprime le discours politique de la supériorité masculine.
Moi, cet exemple sur l'agriculture, ça m'a fait penser à d'autres exemples de ma vie, où en fait les hommes on apprend aux hommes à faire certaines activités, à se servir de certains outils, et c'est des outils ou des activités sans lesquelles d'autres projets ne sont pas possibles. Et par exemple, pour ouvrir des squats, il y a besoin de savoir se servir un minimum d'outils. Et moi, dans mes premiers squats, je me suis rendu compte que comme je ne savais pas me servir d'outils, en fait, si des hommes ne le faisaient pas pour moi, je ne pouvais pas ouvrir de squats. Et ça, c'est des... on a beau dire, mais ça veut dire que les activités que les hommes font, qu'on a appris aux hommes et qu'on n'a pas appris aux femmes, leur permettent de contrôler en fait des projets entiers. Parce que sans leur bon vouloir, on ne peut pas les faire. Sauf si on se réapproprie nous-mêmes ces outils. On va écouter un peu de musique avant de passer à l'artisanat. He took the bomb.
I can see your eyes, it's sadness.
C'était une chanson du Tigre qui s'appelle Deceptown, qui dit hit a bomb, sous-entendu mets-y une bombe et faisons tout péter.
On n'a pas fini, il n'y a pas seulement la collecte, la chasse, la pêche, l'agriculture, il y a aussi l'artisanat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la poterie, du tissage, du traitement des produits végétaux ? Eh bien, on retrouve les mêmes principes, hein, c'est pas très étonnant tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est ces mêmes principes ? C'est déjà le sous-équipement des femmes, l'interdiction de se servir des outils qui peuvent servir d'armes. C'est que les activités des femmes sont des activités à main nue, longues, qui ne laissent que peu de temps libre. Aussi, elles n'ont pas le droit d'utiliser des outils complexes, encore moins des machines qui utilisent une énergie autre que la leur. Les femmes fournissent parfois une partie de l'énergie des machines complexes. Par exemple, sur certains métiers à tisser, c'est elles qui donnent l'impulsion pour un rythme. Ou alors parfois, bon, comme je disais, elles tirent les charrues, mais elles peuvent aussi ramener l'eau qui alimente certaines machines, porter du bois, etc. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'une technique nouvelle masculinise l'activité. Par exemple, la poterie à main nue est une activité féminine. Et on remarque qu'en Amérique du Sud, elle devient masculine quand le tour est introduit. Ou alors, par exemple, le broyage des céréales est une activité féminine, sauf quand il y a un moulin à eau ou à vent. Elle devient un monopole masculin. Ou encore, le tissage à la verticale est une activité féminine. C'est un tissage qui prend beaucoup de temps, qui est très long, très laborieux. Et quand il y a un métier à pédale, ça devient un monopole masculin. Donc rien de très original. Moi, ça me rappelle un autre exemple où une fois, c'était une ONG qui allait dans un village au Niger et qui proposait d'acheter un broyeur du mil pour les femmes qui passaient une grande partie de leur journée à broyer le mil, à piler le mil, quoi. Et les hommes n'étaient pas d'accord parce que le problème, c'est que si les femmes broyait le mil et ne broyait plus le mil justement pendant des heures, le broyait dans des machines et qu'en plus c'était elle qui contrôlait la machine de mil, ça leur laisserait plein de temps libre. Et qu'est-ce que ça allait faire de ce temps libre? Donc ça posait des problèmes. Voilà quoi, hein, on comprend bien la logique de la chose. Alors si on peut faire un bilan jusqu'ici, la constante entre toutes ces activités, entre toute cette différenciation des activités entre les activités masculines et féminines, c'est bien le contrôle par les hommes des armes-outils. Ce contrôle des armes et des outils par les hommes leur permet deux choses. Déjà, le contrôle des aspects les plus rentables de la production, des dernières avancées technologiques, et surtout le contrôle de la force armée.
L'aspect qui prévaut est celui du contrôle de la force. D'où le rigoureux interdit imposé aux femmes quant à l'emploi des armes. Le jeu se joue entre qui a les armes et qui ne les a pas. Le pouvoir des hommes sur les femmes est assuré par le monopole des armes-outils.
En fait, quels que soient les groupes sociaux, c'est clair que le groupe qui contrôle les dernières avancées technologiques contrôle la production de la société. C'est pour cela que les hommes contrôlent les machines les plus complexes. Et qui contrôle la production peut contrôler la vie, le travail de celles et de ceux qui ne contrôlent pas cette production. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais par exemple, on voit dans les situations d'esclavage que ce sont bien les maîtres qui contrôlent la production, les outils, qui détiennent les outils de production, et les esclaves non. Et là, on voit un peu le même principe dans la répartition du travail entre les hommes ou les femmes, où on peut retrouver ça entre les patrons et les ouvriers. En fait, les gens qui contrôlent la production, ce sont les gens qui contrôlent la société et qui peuvent exploiter en fait ceux qu'ils ne contrôlent pas.
Les femmes se voient donc constamment refuser la possibilité de prolonger leur corps et leurs bras par des outils complexes qui augmenteraient leur pouvoir sur la nature. Sans doute se heurtent-elles aux mêmes limitations quand il s'agit du travail intellectuel. C'est là un aspect de la discrimination sexuelle qu'il serait indispensable d'étudier. Cependant, se contenter de dire que les femmes sont limitées à leur propre corps, c'est décrire la situation en termes encore optimistes. Il est plus juste de dire qu'elles sont utilisées en tant que corps. L'appropriation physique des femmes par les hommes ne se limite pas à l'exploitation sexuelle et à la reproduction. Elle atteint aussi, d'une autre façon, l'intégrité physique, motricité contrainte par le biais de l'éducation, des vêtements, etc. Claustration ou confinement, délimitation de l'espace et interdiction de voyager, bandage des pieds, engraissement forcé, mutilation sexuelle, etc., etc.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la limitation des femmes quant aux travaux armés peut prendre des formes extrêmes. Paola Tabet cite l'exemple des Dugumdani en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, chez eux, on coupe les doigts des doigts aux fillettes, sauf les pouces et un ou deux des autres doigts. C'est-à-dire, quand il y a un membre masculin de leur famille qui meurt, en sacrifice, on coupe un doigt de leur fille ou petite fille. Alors, les anthropologues se demandent, est-ce que ça rend le travail impossible ? Non, ça rend impossible juste l'utilisation des armes et des outils complexes. Et notamment l'utilisation des bâtons à fouir des hommes qui sont trop lourds. Les femmes utilisent donc des bâtons à fouir plus légers, avec lesquels elles travaillent pendant de longues heures, en le tenant comme elles peuvent entre leurs deux mains, enfin entre ce qui reste de leurs deux mains. Paola Tabet remarque amère que ça n'empêche pas l'ethnologue Mathisen de décrire cette société comme une société d'une impressionnante et véridique beauté. Donc on voit que les ethnologues sont quand même... Les ethnologues masculins sont dans les mêmes logiques que les sociétés qu'ils étudient, c'est-à-dire qu'ils trouvent que l'oppression des femmes, c'est d'une impressionnante et véridique beauté. On va écouter un peu de musique avant de conclure sur ce texte.
Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Talking about a revolution.
Alors, on vient d'écouter Talking About Revolution de Tracy Chapman, une lesbienne féministe.
Alors, le dernier point dont parle Paola Tabet dans ce texte, c'est la division du travail des matières premières. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans toutes les théories sur la complémentarité et la naturalité de la division des tâches entre les femmes et les hommes. C'est qu'il y a bien un domaine dans lequel les tâches sont divisées, c'est dans le travail des matières premières, c'est-à-dire le travail du métal, du bois, des os, des peaux, des végétaux, des fibres, de la glaise, etc. En fait, Murdoch et Provost, c'est un des aspects du travail qui leur pose problème, parce qu'ils disent qu'il y a une division stricte dans le travail des matières premières. Les hommes travaillent les matières dures, le métal, la pierre, le bois, l'os, de 99% à 94% dans les sociétés. Et les femmes travaillent les matières tendres, peau, fibres, végétales, terre, argile. Or, selon leurs critères, c'est-à-dire qu'eux, ils disaient une activité va être féminine ou masculine en fonction de contraintes physiques, c'est-à-dire que plus un travail nécessite de la force et de l'éloignement de la maison, plus il va être masculin. Et bien, selon ces critères-là, ça ne marche pas. Eux, ils concluent que les raisons de cette division stricte demeurent opaques, selon leurs mots. Paula Tabet dit « En fait, non. Le caractère absolu de cette division montre qu'on est en présence d'un facteur fondamental. » Et c'est vraiment, je trouve, le dernier argument, s'il en fallait un, qui enfonce les théories de la naturalité de la répartition des tâches. Parce que le travail des matières premières nécessite... pas particulièrement de la force physique et pas non plus un éloignement de la maison. Donc les critères de la faiblesse naturelle des femmes et de leur handicap à cause des maternités, des grossesses ne tient pas. Alors, est-ce que les femmes sont exclues du travail des matières dures parce qu'il faut être outillé pour les travailler, un peu comme dans les autres cas qu'on a vus? En fait, les femmes étaient exclues de la chasse, par exemple, quand il fallait avoir des outils qui pouvaient être des armes. Ben ici, non plus. C'est assez étonnant. En fait, non, bon nombre de ces matières premières peuvent être travaillées à main nue ou avec des outils simples que les femmes utilisent. Par exemple, le travail du bois, ça ne demande pas plus qu'un couteau la plupart du temps qu'elles utilisent, par exemple, pour faire la cuisine. En fait, la division stricte du travail des matières premières concerne les produits que l'on obtient avec ces matériaux. En fait, ce qui est interdit aux femmes, c'est le travail des matériaux avec lesquels on pourrait faire des outils ou des armes. Ou des outils qui peuvent servir à des armes. Donc on retrouve encore la même logique poussée à son extrême. Souvent, en fait, on n'en a pas trop parlé durant tous ces textes, enfin tous ces exemples, tous les exemples de ce texte. Bien sûr, dans les différentes sociétés, cette répartition sexuelle du travail est légitimée par... des mythes, des idées, etc. Et Paula Tabet cite un exemple d'un mythe bambara.
Un mythe bambara raconte les origines de la filature et du tissage du coton. En ces temps-là, les bambara vivaient de la cueillette. Un génie révéla à une vieille femme l'emploi du coton, lui remit un fuseau et lui enseigna à filer. À son tour, elle enseignait la technique aux autres femmes, qui gardèrent le secret. Mais après la mort de la vieille, les femmes furent contraintes de révéler aux hommes le secret de la filature. Elles avaient besoin de nouveaux fuseaux et ne pouvaient les fabriquer, puisque, sauf pour faire la cuisine, une femme ne se sert jamais d'un couteau, objet réservé aux hommes. C'est là un leitmotiv. Les femmes ne peuvent pas fabriquer leurs outils. Elles dépendent des hommes, même pour un outillage qui leur sert dans leur travail. Fuseaux, métiers, cuillère, couteau, pilon, mortier, grattoir, etc. La division sexuelle du travail, pour ce qui est des matières premières, loin d'être inexplicable ou obscure, révèle sa rationalité dans le rapport politique entre les sexes. Il s'agit du contrôle des matières premières sans lesquelles on ne peut construire ni armes ni outils. Ainsi, le cercle se referme autour des activités des femmes. Sans armes ni outils complexes, souvent même les plus simples, des bâtons... Sans armes ni outils complexes, souvent même les plus simples, des bâtons, ne doit pas être fait par elles-mêmes, mais pour elles.
Donc on voit que même dans des activités qui ne sont pas très complexes, ce qui est interdit aux femmes, c'est bien un accès à la construction et à l'usage d'outils complexes et d'armes. On va écouter un petit peu de musique avant de conclure.
We'll be right back. put a spell on you, 'cause you're mine. La 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 la. You better stop the things you do. Because you're
d'écouter I Put a Spell of You de Natasha Atlas.
Un des piliers de la domination masculine est donc bien la division sexuelle du travail. C'est la conclusion que Paola Tabet fait. En fait, si on résume sa pensée, on se rend compte qu'en monopolisant les activités où sont utilisés les outils et les armes, les hommes peuvent faire plusieurs choses. Ils contrôlent d'une part la production et ses progrès, d'autre part, ils contrôlent la production de tous les outils, y compris de ceux des femmes, et donc ils contrôlent le travail des femmes, ces dernières dépendant d'eux pour avoir leurs outils ou pour pouvoir réaliser leurs tâches, comme c'est le cas dans l'agriculture. Ils peuvent ainsi utiliser les femmes comme corps productif, les assigner à des tâches qui les fatiguent et leur prend tout leur temps, rendant de ce fait les activités politiques, intellectuelles et donc la révolte quasiment impossible. Donc on voit en fait que cette division sexuelle du travail, elle n'organise pas du tout la complémentarité entre les hommes et les femmes, et elle n'est pas liée à des facteurs biologiques, naturels, mais bien au fait d'utiliser des outils ou des armes, ou de contrôler en fait les productions qui donnent le plus de pouvoir dans la société. Alors si on fait un petit parallèle avec les sociétés industrielles, on voit que ces logiques-là continuent. Par exemple, en ce moment, il y a des études de Establet et Baudelot qui regardent l'orientation vers les filières professionnelles des hommes et des femmes. Et on se rend compte qu'en France, on reste en fait dans ces logiques-là, alors que l'éducation scolaire est censée fournir une égalité des chances entre les sexes, entre tout le monde, mais notamment entre les hommes et les femmes. Et on se rend compte qu'à la fin du bac, par exemple, Les hommes sont orientés vers des filières universitaires qui sont plutôt les filières techniques, les filières techniques, et les femmes plutôt les filières du soin ou alors les filières littéraires, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, avec les filières vers lesquelles sont orientés les garçons, on aura les professions qui sont les plus prestigieuses, qui donnent le plus de pouvoir sur le monde matériel et aussi sur le monde social, et qui peuvent être payées le mieux, alors que les femmes sont dirigées vers des filières qui donnent peu de pouvoir sur le monde social, peu de pouvoir sur le monde matériel, et qui sont mal payées. Donc on voit que même dans des sociétés industrielles, les logiques qui font que les hommes contrôlent la production restent très fortes. Ou encore, si on regarde aussi qui contrôle la production aujourd'hui en France, on se rend compte que plus on va haut dans le patronat, dans la direction des entreprises, dans le contrôle de la production, plus c'est des hommes. C'est quasiment exclusivement masculin, les cadres PDG. Il y a très très peu de femmes et c'est très difficile pour des femmes de pénétrer ce milieu, quoi. Pour finir sur ce texte de Paola Tabet, on se rend compte donc que quand les hommes contrôlent la production, les outils et les armes, ils ont le pouvoir sur les femmes, garanti par la force armée et par le sous-équipement de celle-ci. Ce contrôle de la production des femmes permet l'exploitation de la force de travail de ces dernières. Par exemple, selon des chiffres actuels, je pense à des chiffres de l'UNESCO, mais je ne suis pas sûre, les femmes fournissent entre 60% et 75% du temps de travail mondial effectué, mais disposent de même pas un quart des richesses. Donc on voit qu'au niveau mondial, c'est encore quelque chose qui est très fort, que les femmes travaillent plus en temps de travail, mais par contre, elles ne touchent pas en fait leur production, quoi. Leur production est contrôlée par des hommes et appropriée par des hommes. Alors, les femmes se situant du coup dans cette situation de dépendance économique, les hommes peuvent aussi s'approprier leur sexualité et leur capacité reproductive. En fait, la division du travail entre les hommes et les femmes permet aux hommes de s'approprier les femmes, tout simplement. Donc moi, j'avais choisi de présenter ce texte parce qu'il permet de mettre en lumière un des fondements des patriarcats, et pas seulement du patriarcat en France, mais d'un patriarcat un peu international. En étudiant la division du travail, on voit aussi très clairement les raisons de la domination masculine, parce que souvent on va dire oui, les hommes dominent parce qu'ils seraient plus agressifs naturellement. En fait, quand on regarde concrètement comment ça se passe, on se rend compte que cette structure de domination offre aux hommes de très nombreux privilèges. Travailler peu pour avoir plus de biens en faisant les travaux qui sont à la fois les plus intéressants et à la fois qui donnent le plus de pouvoir de décision sur l'avenir du groupe sont de sacrés avantages en fait. La domination masculine sert très clairement au confort des hommes. En fait, plus tu arrives à exploiter les femmes, plus t'as la vie belle, en fait. C'est pas une question de naturel, d'agressivité naturelle, c'est une question de privilège, comme toutes les dominations. Et donc, maintenir les femmes en état de dépendance économique relative ou totale permet en plus aux hommes d'en faire un usage sexuel et reproductif. Ça, c'est un autre point qu'on parlera plus tard dans Dégenré, mais... quand on met les gens en situation de complète dépendance, en fait, après, on peut faire ce qu'on veut d'eux, et notamment, on peut leur faire des enfants quand ils n'en ont pas envie, on peut les violer aussi souvent qu'on veut, etc. C'est une logique commune. En fait, j'ai choisi aussi ce texte parce qu'il montre que l'exploitation de l'être humain par l'être humain ne commence pas avec l'ère capitaliste, ou avec l'esclavage, ou avec les royautés. En fait, dans des sociétés où il y a très peu d'autres structures de domination, on peut retrouver la domination des hommes sur les femmes, comme on a vu par exemple dans les sociétés de chasseurs-collecteurs. Et ce texte pose implicitement la question : le système d'exploitation mondiale et d'oppression le plus poussé ne sera-t-il pas celui de l'exploitation des femmes par les hommes ? Je vais répéter : le système d'exploitation mondiale et d'oppression le plus poussé ne sera-t-il pas celui de l'exploitation des femmes par les hommes. Mais j'espère en tout cas que cette argumentation de Paola Tabet vous a convaincu sur la nécessité d'abolir la division sexuée traditionnelle du travail chez vous, dans vos collectifs. et dans la société en général.
Voilà, donc l'émission se termine. Pas la prochaine, ni la prochaine, mais on ne sait pas quand, on aimerait bien faire une émission sur les femmes et comment se réapproprier les armes, parce que finalement c'est un peu ce dont il était question. Maintenant il est grand temps de se réapproprier les armes, on en a grand besoin.
Et aussi on parlera de tous les exemples où les femmes l'ont fait, parce qu'en fait il y a plein d'exemples un peu partout dans le monde où les femmes ont pris les armes, se sont révoltées, les différents types d'armes d'ailleurs.
C'est ça, donc on va refaire des armes et aussi aller chercher les vieilles armes. Alors on va finir l'émission en vous souhaitant une bonne soirée et en écoutant un petit texte qui fait clin d'œil à ce qu'on vient de dire, c'est Meufia.
Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme, c'est pour Nana Beur, Act Up, chaîne de garde, l'Occité, Mofia, MLM, pour une nouvelle ère.
Oh yeah, oh yeah, peuple femme, bras aux armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
Et après le mouvement de libération des femmes, PNLM, LF 2000 en force unie pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Comme des forcenés, à vol on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent mais les mentalités stagnent. Convaincus, je revendique des principes plus terre à terre que des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerrières de France. Mais c'est pas fini pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent. Je me bats pour une nouvelle ère. Meufia, tout unis pour le même combat.
Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes.
MLF, nouvelle ère,
armée plus sereine, moins virulente, calme, plus apaisée, posée. Chercher l'harmonie et l'équilibre
entre l'homme et la femme.
Dis-moi toi, tu trouves ça normal que chaque année 60 à 200 femmes meurent de violence conjugale? Et dis-moi toi, comment tu réagis si je te dis que les Afghanes sont privés de tous les droits et risquent le fouet si elles n'obéissent pas à leur mari? Et en effet, les chiffres prouvent, les faits sont réels. Et si on dit rien, on fait rien,
on assiste à une merde universelle.
Je veux pas être complice d'homicide, d'hécatombe de supplice envers les femmes, au nom des miennes, au nom de celles qui souffrent en silence. Meufia, pas en avant vers une nouvelle ère.
MLF, une nouvelle ère, Meufia, prends la relève. De nos jours, les droits de la femme sont bafoués. On trouve encore des femmes exilées pour des mariages forcés. Dans certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées. Partout dans le monde, les droits de la femme au Pakistan sont inexistants. C'est consternant de voir ces femmes se faire répudier pour le simple fait d'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition.
Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh yeah, oh yeah, peuple femme.